Alors, mon projet de recherche est beaucoup plus jeune que le vôtre, il y a à peine 2 mois. Donc, il a commencé en mois de janvier, au mois de janvier. Disons que le sujet est encore assez large, il reste à être défini, mais plus précisément, donc, ce que je vais vous présenter est assez vaste comme, comme sujet. Mais j'y travaille au centre de recherche avec Guillaume et Olivier, que vous avez vu plus tôt. Moi, je m'intéresse particulièrement à la marge de manœuvre de l'État dans l'établissement des politiques culturelles dans le contexte de la mondialisation. Donc, on parle ici sur le plan international, par exemple, de la diversité culturelle. Évidemment, c'est un des premiers sujets sur lesquels qui nous a intéressés. Ce qu'on a fait comme travail jusqu'à maintenant, c'est essentiellement de recenser dans les ententes multilatérales, les ententes bilatérales, quelle est la place qui est accordée à la norme de la diversité culturelle. C'est une norme qui est assez récente, on s'entend. C'est depuis 2005 que la Convention existe. Mais depuis ce temps-là, depuis 2005, il s'est signé au-dessus d'une centaine d'accords commerciaux bilatéraux ou multilatéraux. La norme de la diversité culturelle est pratiquement absente des ententes commerciales. On a recensé à peine un protocole d'entente, par exemple, entre l'Union européenne et la Corée, avec les Caraïbes aussi. Puis, il y a, sur le site aussi de la Convention, un recensement qui a été fait par l'UNESCO elle-même des endroits, disons, dans les forums internationaux où on discute de la diversité culturelle. Et si vous visitez cet endroit-là, c'est assez pauvre quand même. Donc, bon, l'idée n'est pas de dire que la diversité culturelle est complètement absente. Au contraire, quand même, elle est présente dans les débats, dans, disons, comme élément discursif qui transforme un peu l'objectif, en tout cas, moi, ce que j'en ai compris, l'objectif, une partie, en tout cas, de l'objectif de la diversité culturelle des années 90, c'était de passer de l'exception culturelle européenne à la diversité culturelle mondiale. Donc, ce passage-là, sur le plan discursif, est fait. À l'intérieur des ententes commerciales, c'est beaucoup moins évident. Il y a l'entente commerciale que M. Gagné a dont M. Gagné a discuté déjà entre le Canada et l'Union européenne, où il va y avoir aussi des éléments sur la diversité culturelle. Peut-être que ça servira comme guide aussi pour de futures ententes commerciales, mais ça reste à voir. Il y a la question du commerce des services numériques. Hein? On est passé, disons, du commerce des biens physiques qui étaient les bon, mettons dans le domaine de la musique, c'était les CD essentiellement depuis une vingtaine d'années. Maintenant, on est au commerce des services numériques. Ça, le résultat des négociations bilatérales, multilatérales sur le commerce des services numériques va avoir un impact majeur sur la capacité de chaque État de protéger ses services culturels, ses subventions, par exemple, ses programmes de subvention ou ses réglementations internes. On sait que les États-Unis font beaucoup de pression à plusieurs égards pour justement amener les biens culturels ou la musique, le cinéma, vers justement une définition qui serait plus proche de services numériques où les réglementations, les quotas, les restrictions ne s'appliqueraient pas dans ce domaine-là. On pense, par exemple, aux dispositions du partenariat transpacifique qui s'en vient, l'accord commercial entre les États-Unis et l'Union européenne qui s'en vient aussi. Un autre accord qui est en négociation, en anglais c'est le TISA, je ne sais pas s'il y a une traduction française jusqu'à maintenant, le Trade in Service Agreement, qui commencent à se négocier actuellement. Ils en sont aux premières étapes, mais ça risque d'avoir un impact significatif aussi dans la capacité des États à protéger leur industrie culturelle. Donc ça, c'est sur le plan mondial, mais on s'intéresse évidemment aussi à qu'est-ce qui se fait. Une fois que, bon, c'est beau de pouvoir mettre en place, d'avoir quelques leviers pour mettre en place une politique culturelle au sein d'un État, mais il reste qu'à l'intérieur d'un État, il y a également des rapports de force qui existent. On le voit tantôt à la question, est-ce que vous pensez que les intermédiaires dans le monde de la culture devraient sont à leur crépuscule? Ben, tout à l'heure, la réponse qu'on a eue, évidemment, c'était non. Mais si on demandait à un panel d'artistes, ben, je ne suis pas sûr qu'on aurait la même réponse. Hein. Donc, chacun a des intérêts à défendre. Il y a des rapports de force qui existent, qui sont en train de s'exercer, qui s'exercent depuis plusieurs années maintenant, entre les producteurs, les artistes, les distributeurs, les détaillants, les fournisseurs d'accès Internet et les paliers de gouvernement, puis j'en oublie sans doute. Là, je parle seulement du monde de la musique. Bien, ces rapports de force-là sont pas au bout, évidemment, de leur exercice. On est au début, je dirais même, à certains égards. Quand on regarde la stratégie numérique du gouvernement du Québec qui a été présentée il y a 2 semaines, bien, on se rend compte que 15 ans après Napster, on est encore au début de l'établissement d'une stratégie à cet égard-là. Je pense qu'il y a une partie de l'explication qui vient justement des résistances fortes entre les différentes parties intéressées à cette question-là. Donc, c'est une partie de notre programme de recherche aussi d'étudier quels sont les rapports de force à l'intérieur de l'industrie de la musique.